écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur présente
Science et conscience.
François Conneau.
Oui, donc nous avons déjà abordé les travaux universitaires faisant état de l'existence chez les végétaux de canaux métaboliques permettant, selon toute vraisemblance, une communication interne dans le végétal, c'est-à-dire la détection et la transmission de signaux dans la plante. Analogue ou précurseur du système nerveux des animaux, ces systèmes permettent en particulier aux végétaux de sentir des agressions et de réagir en conséquence, comme par exemple l'émission de toxines insecticides lorsqu'un insecte l'attaque. De ce point de vue, les végétaux, tout en demeurant à peu près immobiles, sont donc, dans l'ensemble, doués d'une certaine sensibilité. Et la question du jour est, mais jusqu'où cette sensibilité et cette capacité d'agir s'étend-elle ? En novembre 2021, Ernesto Giannoli et son équipe de l'Université de La Serena au Chili publient une étude étonnante sur une plante de la forêt amazonienne, la Boquilla trifoliata. C'est une vigne de forêt, autrement dit une plante grimpante, qui utilise les arbres pour chercher la lumière en se rapprochant le plus possible du sommet de la canopée. Rien de bien extraordinaire, me diront-vous, on connaît déjà le cas du lierre comme plante grimpante. Il aura fallu attendre le 21e siècle pour comprendre que cette vigne, ce qu'elle avait de singulier finalement. En fait, cette vigne, vous ne pourrez jamais la dessiner. Enfin si, laissez-la dans un pot avec un simple tuteur et elle ressemblera à ce qu'évoque son nom, la trifoliata, c'est-à-dire que votre vigne va innocemment exhiber des feuilles d'un vert profond avec des limbes trifoliées en trois pointes si vous préférez. Mais laissez votre vigne grimper le long du tronc par exemple d'un chêne et son feuillage va progressivement se confondre complètement avec celui de son hôte, des feuilles de chêne. Plus fort, laissez un même pied grimper d'abord sur des fougères, puis sur un chêne, et vous verrez à chaque étage de la vigne correspond un feuillage aux aspects différents. La feuille de la vigne prendra les formes de la feuille d'une fougère d'abord, puis la forme des feuilles d'un chêne ensuite. Il n'existe pas aujourd'hui pour les biologistes d'interprétation définitive pour expliquer cette aptitude phénoménale du mimétisme végétal de cette plante. La première piste, celle évoquée par Giannoli et son équipe dans leur article paru dans Nature. Il s'agirait selon eux d'une symbiose entre la plante et des bactéries aptes à ce que l'on appelle la transmission de gènes horizontale, c'est-à-dire d'une espèce à l'autre. Alors, nous avons déjà parlé de ce phénomène dans notre émission. Il existe par exemple une bactérie parasite du blé dont l'action parasitaire consiste à injecter dans le génome de la plante un gène qui lui fait synthétiser le type précis de glucides dont la bactérie se nourrit. Donc on connaît ça, la propagation, la transmission d'un gène d'une espèce à l'autre. Mais avec la Boquilla trifoliata, on passe un degré au-dessus. Sa bactérie hôte serait capable d'extraire de n'importe quel végétal les gènes permettant de synthétiser sa canopée, ou son feuillage si vous préférez, puis de les communiquer au génome de la vigne elle-même afin qu'elle en adopte l'apparence. Alors je vous laisserai réfléchir un peu là-dessus. C'est un peu comme si d'une simple poignée de main avec une personne que vous croisez au hasard, vous étiez ensuite capable de séquencer son ADN et d'en devenir un clone ou un jumeau. C'est ce que cette plante a d'extraordinaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En novembre 2022, Felipe Yamashita, de l'Institut de botanique cellulaire et moléculaire de l'Université de Bonn, a publié une série d'articles dans le journal scientifique Plants, un article d'abord intitulé « Plants Occhiali, les yeux des plantes ». Selon les conclusions de l'étude de Yamashita, les plantes et les algues sont dotées de variantes de leurs cellules dédiées ordinairement à la photosynthèse, ce qui rend non seulement ces plantes capables de mesurer la direction et l'intensité de la lumière, mais aussi de capter des images précises de leur environnement. Alors, on peut se rappeler à ce moment-là que des plantes capables de capter la lumière, ça pratiquement, elles le font toutes. Si vous tournez votre plante, par exemple, dans une pièce sombre avec une fenêtre lumineuse, plus vous tournez la plante et plus ses feuilles vont se tourner vers la lumière. Donc, pratiquement toutes les plantes ont cette capacité qu'on appelle le phototropisme. Ça ne date pas d'hier. On sait que les plantes sont capables de se tourner vers la lumière. Elles le font lentement. Mais dans cet article-là, Yamashita explique que ça ne se limite pas à la perception de la direction de l'intensité de la lumière, mais aussi à la captation d'images. Le terme d'image, évidemment, restant à préciser. Dans une seconde publication, dans le même journal, Yamashita affirme un autre argument, alors cette fois-ci qui est nettement plus polémique. Son second article s'intitule « De la capacité de Boquilla trifoliata à reproduire la forme des plantes en plastique ». Vous avez bien entendu. C'est-à-dire que Yamashita, désirant savoir si la capacité mimétique de cette plante amazonienne à imiter le feuillage des plantes qui l'environnent était juste due à la capacité d'une bactérie à aller piquer le génome de la plante à côté et lui donner les gènes lui permettant de se fondre dans le décor, si j'ose dire, Yamashita a voulu vérifier s'il n'y avait que cet effet-là ou bien un autre effet. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement vérifié en posant des pieds de vigne Bocilla trifoliata le long de troncs de plantes en plastique. Et selon l'auteur, eh bien, la plante reproduit, alors moins bien que les originaux vivants certes, mais elle reproduit alors dans les grandes lignes les caractéristiques du feuillage des plantes qui l'environnent, au moins pour ce qui est de la couleur, de la taille et la forme grossière des plantes. C'est-à-dire que ça ne marche pas aussi bien que lorsque la plante active le mécanisme du clonage génétique, mais elle est capable en gros de se fondre à peu près dans le paysage qui l'environne. Alors bien sûr, c'est un article qui est récent, il date de 2022, c'est un article qui fait beaucoup polémique, pour l'instant il n'y en a qu'un seul de publié sur le sujet, l'auteur ne donne que les résultats expérimentaux. Alors l'hypothèse de travail ne choque pas les botanistes à l'heure actuelle, mais simplement ce qui est critiqué c'est le protocole expérimental, c'est-à-dire que pour l'instant les gens trouvent qu'il n'y a pas eu beaucoup de moyens, que le protocole n'évite pas éventuellement les erreurs expérimentales sur les conclusions, donc les botanistes trouvent que pour l'instant, enfin les biologistes du monde du végétal trouvent que pour l'instant l'article n'est pas définitivement concluant, mais néanmoins ça ouvre une piste tout à fait intéressante. Donc on va évidemment terminer cette chronique aujourd'hui en laissant les auteurs consolider leurs travaux, mais on ne peut devant cela que rester rêveur devant la perspective qu'ouvre cet article, c'est-à-dire que les plantes seraient non seulement capables de sentir l'ADN de leurs hôtes ou des êtres vivants avec lesquels elles sont en contact, mais elles seraient capables aussi d'agir et de réagir en conséquence et peut-être finalement capables de les voir. Donc je vous laisse rêver sur ces considérations et vous dis à bientôt.